Mardi 27 juin et mercredi 28 juin, il est 16h et des poussières. Ne vous éloignez pas de votre poste, restez bien accrochés à la fréquence 107.9 FM. Une nouvelle édition du débrief va commencer. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci d'être à l'écoute en direct ou encore en différé. Les actualités sont nombreuses aujourd'hui. Comme d'habitude, on ouvre dans un instant avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. On débute sur le portail de RFI à l'adresse rfi.fr avec une nouvelle qui nous ramène aux années 90. C'est une nouvelle qui concerne l'ancienne Yougoslavie, la guerre qui a sévi dans cette région du monde, dans cette région d'Europe. Génocide de Srebrenica, la responsabilité des Pays-Bas reconnue en appel. Une cour d'appel néerlandaise a estimé ce mardi 27 juin 2017 que l'État était partiellement responsable de la mort de plusieurs centaines des victimes du génocide de Srebrenica à l'été 1995. Les soldats néerlandais n'auraient pas dû, selon la cour, livrer aux forces bosno-serbes les hommes qui restaient dans l'enclave protégée par les militaires du Dutchbat, le bataillon néerlandais de la Force de protection des Nations Unies. Au total, environ 8000 Bosniaques, hommes, adolescents et vieillards, ont péri lors du génocide perpétré contre les musulmans de Bosnie à la prise de l'enclave de Srebrenica en juillet 1995. Le jugement de la Cour d'appel de La Haye ne porte que sur 350 d'entre eux, rappelle le correspondant de RFI Pierre Benazet. Ces 350 personnes, ce sont celles qui étaient restées les dernières dans le périmètre que les casques bleus néerlandais étaient censés protéger. Leur famille avait porté plainte et dans le jugement en première instance en 2014, le tribunal avait déjà estimé que la responsabilité de l'État néerlandais était engagée. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de RFI et dans plusieurs autres médias internationaux d'ailleurs. Génocide de Srebrenica, la responsabilité des Pays-Bas reconnue en appel. Colombie maintenant dans le fil de l'agence Reuters, le dépôt des armes des FARC sur le point d'être achevé, selon l'ONU. Les rebelles des FARC ont remis la majorité de leurs armes aux Nations Unies, a annoncé lundi l'organisation internationale qui préside à la démobilisation prévue par l'accord de paix signé l'année dernière à l'issue de 52 ans de conflits armés en Colombie. En vertu de l'accord signé par les Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et le gouvernement colombien, les rebelles ont accepté de rendre leurs armes à l'ONU dans des camps de démobilisation ouverts dans tout le pays. L'ONU précise que 7132 armes ont été entreposées dans des conteneurs de sécurité. Un petit nombre d'armes va rester aux mains de certains rebelles pour assurer la sécurité des camps jusqu'à leur fermeture, prévue le 1er août. Toujours en Amérique du Sud, cette fois au Brésil, on revient dans les colonnes de RFI. Le procureur demande la mise en accusation formelle de Michel Temer. Au Brésil, le procureur de la République a demandé lundi 26 juin la mise en examen du président Michel Temer pour corruption passive, suivant là les conclusions de l'enquête de la police fédérale. Une longue procédure judiciaire commence avec, à la clé, une instabilité politique toujours plus grande. Michel Temer est crédité d'à peine 7% d'opinion favorable selon la dernière enquête d'opinion parue au cours de la fin de semaine. Alors on peut rappeler que Michel Temer avait été placé au pouvoir en remplacement de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff qui a été victime d'un coup d'État parlementaire. Ce sont les élites du Brésil qui ont installé Michel Temer, un participant de ce coup d'État parlementaire, à la tête de l'État il y a à peine un an. Et voilà qu'il est maintenant au criminel poursuivi par le procureur de la République brésilienne. Donc l'instabilité se poursuit au Brésil. Vous aurez les nouvelles dans le portail de RFI et aussi dans le journal Le Monde et Mediapart, entre autres. En France, François de Rugy est élu président de l'Assemblée nationale. Le député de Loire-Atlantique et ex-écologiste François de Rugy a emporté le scrutin désignant le nouveau président de l'Assemblée nationale avec 353 voix sur 543 bulletins exprimés. François de Rugy avait été choisi plus tôt en matinée par les élus de La République En Marche pour être le candidat au perchoir de l'Assemblée nationale française. En Turquie, cette fois dans les colonnes du journal Ouest France, l'opposition turque en marche pour crier justice. Après la condamnation d'un député d'opposition à 25 ans de prison, les détracteurs du président Erdogan en Turquie se sont lancés dans une marche de protestation de 432 kilomètres entre Ankara et Istanbul. Depuis 9 jours, une partie de l'opposition turque au président Erdogan s'est lancée dans une grande marche pour la justice entre la capitale Ankara et Istanbul, la plus grande ville du pays. Organisée par le social-démocrate CHP, laïque et kémaliste, kémaliste du nom du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal. Cette marche, donc, s'était lancée le 15 juin à la suite de la condamnation à 25 ans de prison du député et ancien journaliste Enis Berberoğlu. L'élu est accusé d'avoir fourni à un journal d'opposition en 2015 une vidéo tournée non loin de la frontière syrienne en janvier 2014. Donc, cette vidéo prouvait que l'État turc aidait des rebelles radicaux, des djihadistes, membres de l'État islamique notamment, contre le dictateur syrien Bachar al-Assad. Pour avoir transmis ces documents à la presse, le député a été condamné et incarcéré pour espionnage à des fins politiques et divulgation de secrets d'État. Cette affaire démontre que la justice a perdu toute indépendance. Les procureurs et les juges répondent désormais directement aux instructions du pouvoir, a estimé Doga Kiroglou, un responsable des jeunesses du parti d'opposition. Dans les villes traversées par les marcheurs, défilés et rassemblements se multiplient. Le gouvernement et ses alliés d'extrême droite nous menacent pour nous intimider, a commenté l'un des meneurs. Leurs méthodes mafieuses ne font que nous apporter plus de soutien. Même chez certains électeurs d'Erdogan, les gens ne comprennent pas que l'on veuille nous empêcher de défiler. Alors vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Ouest-France à l'adresse westfrance.fr. L'opposition turque en marche pour crier justice. Retour en Europe, cette fois pour parler de Brexit. Les expatriés en Grande-Bretagne, premier bras de fer entre Londres et Bruxelles. L'Union européenne juge insuffisant le nouveau statut proposé par Theresa May aux Européens installés au Royaume-Uni. C'est un article signé par Éric Albert et Cécile Ducourtieu dans le journal Le Monde. La drôle de guerre est finie, écrivent-ils. Lundi 26 juin, le Royaume-Uni est pour la première fois entré dans le vif du sujet avec des propositions concrètes sur la façon de mener à bien le Brexit. Ces propositions concernaient les 3 millions d'Européens qui résident en Grande-Bretagne. Theresa May est venue à la Chambre des communes pour faire valoir sa bonne volonté. « Nous voulons que vous restiez », a lancé la première ministre aux Européens qui vivent actuellement au Royaume-Uni. Elle promet qu'aucune famille ne sera divisée et que le processus administratif sera aussi réduit et léger que possible. Theresa May veut créer pour les Européens un nouveau statut de résident permanent intitulé « Settled Status » qui offrira en principe les mêmes droits que ceux dont ils disposent actuellement. Vivre et travailler au Royaume-Uni, accès aux soins, à la retraite, à l'université, etc. Les Européens vivant depuis plus de 5 ans en Grande-Bretagne bénéficieront de ce régime. La proposition de Londres repose cependant sur 2 conditions. La première est que la réciprocité soit assurée pour les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne actuellement. La seconde est qu'un accord complet soit trouvé sur le Brexit. Le sort des ressortissants européens n'est qu'un des dossiers de la procédure de divorce entre Londres et Bruxelles. Tant que l'ensemble ne sera pas conclu, les promesses sur les ressortissants européens resteront lettre morte. Ce n'est pas une offre généreuse, mais la preuve que Theresa May utilise les gens comme une monnaie d'échange, a accusé Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste. Jeremy Corbyn propose une garantie unilatérale du Royaume-Uni vis-à-vis des 3 millions d'Européens qui y habitent actuellement. Alors, c'est un sujet difficile et délicat. L'Union européenne et la Grande-Bretagne qui sont déjà dans les discussions du Brexit. Vous trouverez ça dans le journal Le Monde. On reste au Royaume-Uni. En Écosse, la première ministre reporte la décision sur un nouveau référendum d'indépendance. C'est dans le journal Le Monde. Fragilisée par le résultat des législatives du 8 juin, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé mardi 27 juin que la décision de l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance était repoussée à l'automne 2018 à l'issue des négociations sur le Brexit. Jusque-là, Nicola Sturgeon avait dit vouloir organiser ce référendum entre la fin de 2018 et le début de 2019, après plusieurs mois de préparation. Mais le rêve des nationalistes écossais du Scottish National Party, le SNP, qu'elle dirige, a pris du plomb dans l'aile après les législatives au Royaume-Uni du 8 juin, qui l'ont vu essuyer de lourdes pertes. Lors de ce scrutin, le SNP a perdu 21 sièges par rapport aux précédentes législatives de 2015 pour ne plus disposer que de 35 des 59 sièges du Parlement de Westminster alloués à l'Écosse. Retour dans le fil de l'agence Reuters à présent. La Chine accuse l'Inde de violation de la frontière. Les autorités chinoises ont accusé des gardes frontières indiens d'être entrés sur leur territoire au niveau de l'état du Sikkim, rapporte mardi l'agence de presse Chine Nouvelle. Les gardes frontières indiens ont entravé les activités normales des forces chinoises dans le secteur en question, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a appelé les Indiens à se retirer sans attendre, ajoute l'agence Chine Nouvelle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a exhorté l'Inde à respecter l'intégrité nationale chinoise et les traités transfrontaliers bilatéraux et a ajouté que la Chine avait d'ores et déjà suspendu les pèlerinages officiels au col de Nathula, qui marche à 4300 mètres d'altitude, la frontière entre le Sikkim et le Tibet. Nathula relie l'Inde aux sites hindouistes et bouddhistes de la région et a été le théâtre d'âpres accrochages frontaliers en septembre 1967 entre des soldats chinois et des soldats indiens. Le porte-parole de l'armée indienne et le ministère indien de la Défense n'ont pour l'heure pas tenu à réagir, indique Reuters dans cette dépêche. En Allemagne, Angela Merkel assouplit sa position sur le mariage homosexuel. La chancelière allemande Angela Merkel a paru assouplir sa position sur le mariage homosexuel, souhaitant ne pas laisser l'avantage à ses adversaires politiques sur cette question à 3 mois seulement des élections législatives en Allemagne. Invitée lors d'une réception organisée par le magazine féminin Brigitte, lundi soir, la chef du gouvernement allemand a déclaré avoir pris bonne note de la position favorable des autres partis sur une reconnaissance du mariage gay. J'aimerais qu'on mène une réflexion sur une situation qui relève d'une question de conscience plutôt que de l'imposer par un vote majoritaire, a déclaré Angela Merkel à ce magazine. Le Parti social-démocrate, le SPD, les libéraux-démocrates du FPD et les Verts allemands ont fait du mariage homosexuel une condition de leur participation à un éventuel gouvernement de coalition après le scrutin du 24 septembre prochain. La question du mariage gay bénéficie d'une large approbation dans l'opinion publique allemande, mais un soutien du Parti chrétien-démocrate, le SDU, divisé sur cette question, serait l'assurance de son inscription dans la loi. On parle de climat à présent. À lui seul, le Groenland peut faire monter les océans de 7 mètres. C'est dans le journal Ouest France. Vous trouverez ça à l'adresse westfrance.fr. Le niveau des océans est monté en 2014 à une vitesse supérieure de 50% à celle de 1993, écrit-on. Et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland étant désormais à l'origine de 25% de cette hausse des mers, contre 5% il y a 20 ans, selon une étude scientifique parue en début de semaine. Ces chiffres sont alarmants, précise Ouest France dans cet article. En 2014, le niveau des océans a augmenté d'environ 3,3 mm par an. C'est beaucoup et c'est bien plus que les 2,2 mm par an de hausse constatée en 1993, révèlent les chercheurs dans la revue Nature Climate Change. Ces conclusions risquent d'accroître encore l'inquiétude des scientifiques qui redoutent que le niveau des océans monte plus vite que prévu il y a encore quelques années, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Et cet article indique bien sûr que des villes côtières importantes sont menacées par cette hausse du niveau des mers. Des centaines de millions de personnes vivent dans des zones situées sous le niveau de la mer, précise l'article. D'importantes villes côtières sont menacées et de petites îles se préparent à être submergées. À lui tout seul, poursuit cet article, le Groenland contient assez d'eau gelée pour faire monter le niveau des océans d'environ 7 mètres. La plupart des scientifiques s'attendent désormais à ce que la hausse totale dépasse largement le mètre d'ici la fin du siècle, selon un expert cité dans cet article. Cette nouvelle étude réconcilie pour la première fois les résultats des deux méthodes distinctes de mesure du niveau de la mer. Vous trouverez ça dans Ouest France à l'adresse westfrance.fr. Restez à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Nous allons enchaîner dans quelques instants avec la revue de presse nationale. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute du débrief, édition des mardis 27 juin et mercredi 28 juin. On fait un changement d'échelle, on effectue un zoom sur les actualités canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On débute dans les pages du journal franco-ontarien Le Droit. Renouvellement de courte durée pour Lawrence Cannon. C'est une nouvelle qui fait le pont entre l'international et le national. Un article signé par Julien Paquette. Finalement, la prolongation du mandat de Lawrence Cannon à titre d'ambassadeur du Canada à Paris aura été de courte durée. Le principal intéressé a confirmé sur Twitter mardi matin que son mandat en France prendra fin le 30 septembre prochain. Dans ce court message, Lawrence Cannon a remercié les premiers ministres Stephen Harper et Justin Trudeau pour cette belle et grande mission, selon sa propre expression. La prolongation de ce mandat diplomatique, qui devait prendre fin normalement fin mai cette année, avait été annoncé sans tambour ni trompette dans un avis publié mercredi dernier par le bureau du Conseil privé. En 2011, rappelle le journaliste Julien Paquette, l'élu conservateur du Québec, Lawrence Cannon, avait été emporté par la vague orange qui avait déferlé sur la province lors des élections générales. Au printemps dernier, la rumeur voulait que Lawrence Cannon était intéressé à se présenter comme candidat à la mairie de Gatineau. Il avait nié le tout dans une entrevue accordée au quotidien Le Droit en mars dernier, soutenant avoir fait un trait sur un retour en politique active. L'ex-poids lourd du gouvernement Harper avait été épargné en juillet dernier lorsque le gouvernement Trudeau avait procédé à un remaniement de son corps diplomatique. Certains chefs de mission dont les nominations avaient été critiquées car elles étaient jugées trop partisanes avaient alors été rapatriés sans avoir terminé leur mandat. À l'époque, Lawrence Cannon suggérait que son maintien en poste s'expliquait notamment par une convention diplomatique. Celle-ci veut que le mandat de l'ambassadeur du Canada en France concorde avec celui du président de la République française, avait expliqué l'ancien élu à la presse canadienne à ce moment. Le gouvernement Trudeau avait donc, selon lui, décidé de respecter cette coutume, ce qui l'aurait mené jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Mais voilà que Lawrence Cannon entamera finalement celui d'Emmanuel Macron, le nouveau président français, toujours installé dans ses bureaux parisiens du 35 avenue Montaigne. Alors quelques mois encore pour Lawrence Cannon à Paris à titre d'ambassadeur du Canada en France. Une très courte prolongation comme l'indique cet article de Julien Paquette. On va consulter maintenant le fil de la presse canadienne. On aperçoit cette nouvelle concernant la santé publique canadienne. Theresa Tam, nommée médecin en chef du Canada. La docteure Theresa Tam, qui était administratrice en chef par intérim de la santé publique à Ottawa depuis décembre, a été nommée définitivement à ce poste. La docteure Tam devient donc la troisième personne à devenir médecin en chef du Canada, un poste créé en 2004 à la suite de la crise du SRAS. Theresa Tam occupait ce poste de façon intérimaire depuis le départ à la retraite du docteur Gregory Taylor en décembre dernier. Cette spécialiste des maladies infectieuses, pédiatrique, aussi épidémiologiste, a occupé des postes de haute direction à l'Agence de la santé publique du Canada, notamment celui de sous-ministre adjointe responsable de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses. La docteure Tam, qui a aussi publié plusieurs études, a co-présidé un certain nombre de comités fédéraux, provinciaux et territoriaux, notamment le Conseil du réseau de santé publique et le comité directeur sur la résistance aux antimicrobiens. Elle a acquis une vaste expérience dans la gestion des épidémies et des urgences sanitaires, rappelle le cabinet de la ministre de la Santé, Jane Philpott. L'un des défis qui attendent la docteure Tam sera sans contredit la crise des opioïdes, rappelle la presse canadienne dans cet article, crise qui a déjà causé des centaines de décès par surdose au pays. La docteure Tam indique d'ailleurs que la santé publique nécessite de mobiliser les efforts de nombreux acteurs pour protéger et promouvoir la santé de tous les Canadiens, y compris les plus vulnérables de notre société. Alors vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. Theresa Tam, nommée médecin en chef du Canada, elle était à ce poste à titre intérimaire depuis plusieurs mois. Cannabis Ottawa ouvre les vannes pour les producteurs. C'est signé par Tristan Péloquin dans le journal La Presse. Craignant d'être confronté à une pénurie de marijuana au premier jour de la légalisation, Ottawa ouvre grand les vannes pour les producteurs. Pendant que Santé Canada s'active à assouplir les règles du jeu pour l'industrie, 6 nouvelles entreprises viennent d'obtenir une licence de production de cannabis médical. C'est le ministre ontarien des Finances, Charles Souza, qui a soulevé la problématique d'une éventuelle pénurie de cannabis récréatif à partir du premier jour de la légalisation, le 1er juillet 2018, lors de la rencontre semestrielle des ministres des Finances à Ottawa la semaine dernière. Le plus gros problème auquel nous faisons face à la lumière des discussions d'aujourd'hui, a dit le ministre Souza, c'est le problème de l'offre. Il faut s'assurer d'une offre suffisante si nous voulons arriver à diminuer la consommation illégale et la présence du crime organisé. Les autres ministres des Finances canadiens qui ont participé à cette conférence ont surtout discuté de l'importance de trouver un juste niveau de taxation pour assurer un prix compétitif face au crime organisé. Parallèlement, Santé Canada a commencé à assouplir considérablement les règles pour les producteurs de cannabis médical déjà autorisés. Les nouvelles conditions éliminent aussi toutes les limites annuelles de vente pour la marijuana et les huiles de cannabis qu'elle produit. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, Justin Trudeau défend l'approbation de la vente de Norsat à des intérêts chinois. Le premier ministre Justin Trudeau défend la décision de son gouvernement d'approuver la vente d'une entreprise canadienne de communications satellites à un géant chinois des télécommunications. C'est un sujet qu'on avait abordé dans le débrief il y a environ une dizaine de jours, peut-être deux semaines. La vente d'un système de satellites très sensible à des intérêts chinois causait des inquiétudes. Je vous avais lu la tribune que signait un ancien élu conservateur à ce sujet sur le portail Prince Arthur Herald. Je poursuis la lecture de cet article dans la presse canadienne. Justin Trudeau a affirmé que l'examen initial de l'acquisition par les Chinois, requise en vertu de la loi canadienne, avait démontré qu'il n'y avait aucun risque pour la sécurité nationale. Aucune autre évaluation ne s'est avérée nécessaire, ce qui a permis à la vente de se faire. Le premier ministre a insisté pour dire que son gouvernement n'approuverait aucune décision étrangère qui soulèverait un même soupçon d'inquiétude sur la sécurité nationale. Alors la société chinoise Itera Communication prendra le contrôle de l'entreprise de Vancouver, Norsat International, qui fournit du matériel à l'armée américaine et aux partenaires de l'OTAN du Canada. Cette acquisition a provoqué un débat sur les risques pour la sécurité nationale et l'ouverture du gouvernement à approuver la vente d'une entreprise canadienne à un géant chinois. Les députés de l'opposition à Ottawa avaient fait part de leurs inquiétudes sur la vente et certains représentants américains ont exprimé de la réticence à l'idée qu'une firme chinoise ait accès à des informations délicates. Et fait intéressant, on a une autre nouvelle qui concerne la Chine et l'espionnage industriel dans le fil de l'agence France-Presse cette fois. La Chine accepte de cesser tout espionnage industriel au Canada. Alors, doit-on la croire sur parole? C'est la question qu'on peut se poser à la lecture de ce titre. En tout cas, je vous lis quelques lignes de cette dépêche de l'AFP. Le gouvernement chinois a accepté de cesser son espionnage industriel ou d'encourager, par le piratage informatique, le vol de propriété industrielle au Canada, a-t-on indiqué lundi de sources diplomatiques. L'engagement du gouvernement chinois de mettre un terme à des pratiques de vol de secrets industriels a été pris dans le cadre d'un accord plus large et réciproque dans les domaines judiciaires et de la sécurité. La Chine et le Canada ont convenu qu'aucun gouvernement n'effectuerait le cybervol de propriété intellectuelle ou n'appuierait consciemment une telle activité, selon un communiqué commun reçu lundi. Cet accord porte aussi sur la fin du vol des secrets commerciaux ou autres renseignements commerciaux confidentiels dans le but de procurer des avantages concurrentiels à des entreprises ou à des secteurs commerciaux, selon le relevé de conclusion d'une réunion bilatérale Canada-Chine sur la sécurité nationale et la primauté du droit. Retour dans le fil de la presse canadienne, trois sites d'injection supervisés sont inaugurés à Montréal. Donc, ça n'est plus qu'à Vancouver et à Victoria qu'on a des sites d'injection supervisés au Canada. Il en existe d'autres. Trois services d'injection supervisés qui avaient déjà ouvert leurs portes la semaine dernière en territoire montréalais ont été inaugurés lundi par des élus des trois ordres de gouvernement fièrement réunis autour de cette initiative de santé publique. Mais tout le monde n'est pas aussi ravi de la nouvelle, précise la presse canadienne. Le résident Daniel Marangère fulminait alors que la ministre québécoise déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Santé, Joël Lightbound, et le maire de Montréal, Denis Coderre, participaient à une séance de photos à l'un des sites administrés par l'organisation Cactus Montréal. Donc, il y avait une séance de photos officielle dans un de ces sites d'injection supervisée. Et des citoyens en colère s'y sont présentés pour faire entendre leur désaccord. Sur la scène québécoise toujours, cette fois dans le portail de Radio-Canada, 11 ans de pénitencier pour l'ex-douanière Stéphanie McLellan. Stéphanie McLellan, 40 ans, devra purger une peine de 11 années de pénitencier selon ce qu'en a décidé un juge mardi à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'ex-douanière a subi un procès pour avoir laissé entrer au Canada un véhicule transportant près de 182 kilos de cocaïne. L'ex-douanière, qui avait 13 ans d'expérience, avait été reconnue coupable le 19 mai dernier des trois chefs d'accusation pesant contre elle, c'est-à-dire importation de cocaïne, contrebande et abus de confiance. Le juge dans cette affaire a dit avoir été frappé par la quantité importante de drogue transportée dans le véhicule qu'avait laissé passer la douanière le 2 décembre 2014 au poste frontalier de La Colle. La drogue, contenue dans des sacs nullement dissimulés, se trouvait à l'arrière de la voiture. Le juge n'a pas cru l'accusé, qui prétextait avoir été victime de distraction en laissant entrer au Canada des voyageurs contre lesquels pesait pourtant un signalement. Sans antécédent judiciaire, Stéphanie McLellan pourrait être éligible à une libération conditionnelle au tiers de sa peine. Le juge, qui l'avait autorisée à rester en liberté durant le procès, a noté qu'elle avait respecté toutes les conditions et s'était même trouvé un nouvel emploi. Mère de famille monoparentale, Stéphanie McLellan a 4 enfants. Il a été révélé d'ailleurs au cours de ce procès que le 2 décembre 2014, la douanière avait envoyé un message texte à Soninder Dhingra, présumée tête dirigeante d'un réseau d'importation de stupéfiants, en attente de 2 procès. Stéphanie McLellan a informé son amie qu'elle était postée dans la guérite Nexus, destinée aux voyageurs qui bénéficient d'un accès rapide à la douane. 7 minutes plus tard, une camionnette de marque BMW, avec 2 occupants à bord, s'est présentée à cette guérite. Stéphanie McLellan les a laissés passer au bout de 36 secondes sans vérifier leur passeport. Et on a eu une controverse à la Saint-Jean-Baptiste cette année au Québec, une malheureuse controverse qui si vous voulez, invité de nouvelles accusations de racisme. Vous avez une analyse sur le portail ricochet.media, une analyse qui prend le grand angle, si vous voulez, une analyse macro qui invite à la réflexion, et c'est signé par Joseph Elfassi. Vous trouverez ça sur le portail ricochet.media. Je vous en lis quelques lignes. La société Saint-Jean-Baptiste s'est défendue contre les accusations de racisme fusant de toutes parts après la vidéo virale des jeunes noirs poussant un cortège occupé par une chanteuse blanche entourée de femmes blanches qui chantent toutes vêtues de blanc, alors que les jeunes pousseurs, eux, portaient des tenues de prisonniers ou d'esclaves, c'est selon. On le sait maintenant, ce ne sont pas des jeunes défavorisés qu'on a instrumentalisés pour une quelconque représentation sadique ou raciste, mais bien des jeunes sportifs s'étant portés volontaires pour participer aux célébrations de la fête nationale. Cela dit, ce n'est pas parce que des individus ne sont pas explicitement réprimés dans une situation que les communautés auxquelles ils appartiennent sont exemptes de discrimination au quotidien. Et ce n'est pas parce qu'une bourde ne trouve pas ses origines dans une malveillance explicite qu'on devient soudainement exempt d'un examen plus profond de nos habitudes et de nos torts. Alors, si vous voulez revenir sur cette controverse qui a éclaté au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal il y a quelques jours, il y a une analyse intéressante sur le portail ricochet.media. C'est sous la plume de Joseph Elfassi. Et une nouvelle, si vous voulez, un peu insolite, un peu amusante, toujours au Québec, le statut des îles de la Madeleine, quel est-il à l'Assemblée nationale? On l'a remis sur la table et tout de suite, plusieurs avis ont été émis de part et d'autre. Le statut particulier des îles ne sera pas remis en question. C'est dans le portail de Radio-Canada. Le député des îles de la Madeleine, Germain Chevary, rejette du revers de la main toute discussion sur la remise en question du statut de circonscription électorale de ce petit archipel. C'est le directeur des élections, Pierre Ride, qui a recommandé qu'on étudie la possibilité de fusionner les îles de la Madeleine, la circonscription, à celle de la Gaspésie, dans un rapport sur la refonte de la carte électorale du Québec. Le député Chevary affirme que le premier ministre Couillard, le premier ministre du Québec, est de son avis et qu'il n'y aura pas de débat à ce sujet. Le sujet est clos et il n'est pas question que les îles perdent sa circonscription compte tenu de notre situation unique au Québec, a déclaré le député des îles de la Madeleine, Germain Chevary. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette nouvelle qui concerne le tout petit archipel québécois qui est juste au nord de l'île du Prince-Édouard, c'est dans le portail de Radio-Canada. Le statut particulier des îles de la Madeleine ne sera pas remis en question. Et c'est avec cette actualité qu'on va refermer la revue de presse nationale pour les 27 et 28 juin. Le débrief, votre rendez-vous info quotidien, va vous revenir dans quelques instants avec la rubrique Francophonie du jour. À tout de suite! Vous écoutez le débrief à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Nous allons maintenant nous intéresser à la francophonie. C'est la rubrique francophonie pour les 27 et 28 juin. La nouvelle du jour nous arrive d'Alberta. C'est dans les pages du journal Le Devoir, sous la plume de Jean-Benoît Nadeau. Et ça s'intitule « Du neuf en Alberta ». Jean-Benoît Nadeau écrit « Le ciel semble s'éclaircir sur les prairies alors que les 82 000 francophones d'Alberta viennent d'obtenir l'adoption d'une politique sur les services en français. Chez nous, quand nous obtenons des services en français, c'est pas parce que le gouvernement l'a voulu, mais parce que le hasard a placé un francophone en poste », a déclaré Brigitte Kopielnicki, vice-présidente de l'Association canadienne française de l'Alberta, l'ACFA, et directrice générale du conseil scolaire Nord-Ouest numéro 1 à 500 km d'Edmonton. La nouvelle politique, a-t-elle déclaré aux journalistes du Devoir, va assurer des services en français plus stables. Ça ne sera plus juste une question de chance. Dans cette province de l'Ouest où le français fut la première langue européenne parlée, cette nouvelle avancée sort le français du caveau obscur où le gouvernement provincial l'avait relégué. Avec la Colombie-Britannique, l'Alberta était l'avant-dernière province canadienne à se borner à n'offrir aux francophones qu'un simple secrétariat. Le secrétariat francophone de l'Alberta, qui relève du ministère de la Culture, était un organe de liaison qui agissait un peu comme une sorte d'ombudsman des francophones auprès des autres ministères. Dans la nouvelle politique albertaine, chaque ministère devra ouvrir une porte et le secrétariat s'assurera que cette porte reste ouverte, écrit le journaliste. Le message de cette politique, c'est que les services en français, c'est important. Ce n'est pas juste parce que je le veux, mais parce que j'y ai droit, a déclaré Brigitte Kopielnicki. Les atomes crochus sont nombreux entre les franco-albertains et le nouveau gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Une douzaine de ministres parlent français, a rappelé la vice-présidente de l'ACFA. Avant, on pouvait s'estimer chanceux s'il y en avait trois. Désormais, l'Alberta reconnaît le drapeau des franco-albertains parmi ses emblèmes officiels. L'intention réelle de la première ministre Rachel Notley était de présenter une loi sur les services en français, mais elle a choisi d'y aller à petits pas avec une politique qui pourra servir de cadre à une éventuelle loi. C'est que le fonds anti-francophone est fort en Alberta et la récession rendait la perspective d'une loi cadre plus coûteuse, difficile à justifier. Une politique, c'est un vœu pieux, convient Jean Johnson, ancien président de l'ACFA et nouveau président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Selon lui, la posture qu'adoptera l'ACFA dans les prochains mois sera déterminante pour la suite. Si les fonctionnaires se sentent harcelés, ils vont se braquer et fermer la porte. L'enjeu sera de ne pas présenter la politique comme une course à l'argent, mais de mettre en valeur ce qui peut être fait sans que ça coûte quoi que ce soit. Par exemple, en inscrivant le bilinguisme dans le descriptif des postes à pourvoir. Parce qu'une politique est aisément réversible, les franco-albertains continueront de lutter pour obtenir une loi sur les services en français. « Ce n'est jamais facile », a déclaré la vice-présidente de l'ACFA. « On se fait souvent dire « Pourquoi je devrais le faire en français si vous comprenez l'anglais ?» Et même au ministère albertain de l'Éducation, explique-t-elle, « Bien des fonctionnaires ne sont pas au courant que la gestion des écoles francophones par des francophones est une exigence constitutionnelle. » Hors Québec, le socle de la protection linguistique n'est plus la religion, mais la loi et le système éducatif. Les francophones avaient leurs écoles depuis longtemps, mais depuis 1990, la Cour suprême a statué qu'ils doivent pouvoir gérer eux-mêmes leurs écoles à travers leur propre conseil scolaire francophone. Pour le reste, chaque province y va comme elle le sent. Par rapport aux franco-albertains, les francophones de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick roulent en Cadillac, écrit le journaliste du journal Le Devoir. En plus de leur loi sur les services en français, les deux législatures, donc à savoir le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, ont chacune créé un poste de commissaire chargé de veiller à l'application de la loi. Tout de même, trois autres provinces, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba, ont une loi sur les services en français, sans toutefois aller jusqu'au commissariat. Quant à l'Alberta, elle vient de rejoindre Terre-Neuve et la Saskatchewan, dotée d'une simple politique, tandis que la Colombie-Britannique se contente d'un simple programme des affaires francophones. Même si Ottawa applique sans enthousiasme la loi sur les langues officielles, poursuit cet article du Devoir, celle-ci a néanmoins un effet d'entraînement. Par exemple, la loi fédérale donne à Patrimoine canadien le pouvoir d'inciter des provinces à statuer sur le français. C'est ainsi que Patrimoine canadien a signé avec toutes les provinces des ententes financières pour l'enseignement et les services en français. La condition pour recevoir l'argent est que le gouvernement provincial y contribue aussi et qu'il parle aux représentants des communautés francophones locales pour établir les besoins. Dans les cas les plus bouchés, ça force le dialogue, écrit le journaliste. Alors, vous trouverez cet article intitulé « Du neuf en Alberta » dans le journal Le Devoir. C'est signé par le chroniqueur Jean-Benoît Nadeau, en date du 27 juin, sur la nouvelle politique du français en Alberta. Et c'était là votre information à thématique francophone dans cette édition des 27 et 28 juin du Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
Mais je suis pris au fond d'une poche de coton. Mais je suis pris au fond d'une poche de coton.
Nous entendions à l'instant la pièce Sleeping Bag de l'artiste Danny Placard. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Alexis Gagnon en votre compagnie. Nous allons maintenant nous intéresser aux nouvelles de Colombie-Britannique. Il se passe beaucoup de choses en Colombie-Britannique, bien sûr. On va tout de suite entamer cette revue de presse britanno-colombienne avec les nouvelles entourant cette élection du 9 mai dernier. Deux projets de loi défaits en chambre pour faire défiance au gouvernement. C'est dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. L'Alliance NPD Vert a défait à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique deux projets de loi proposés par le gouvernement minoritaire libéral lundi, dans l'attente du vote de confiance sur le discours du trône qui doit se dérouler jeudi. Les 44 députés de l'Alliance NPD Vert ont voté contre ces deux projets présentés par le gouvernement minoritaire libéral de Christy Clark. L'un de ces deux projets avait pour but d'interdire les dons d'entreprises et de syndicats aux partis politiques, tandis que l'autre accordait un statut officiel au Parti Vert. Le chef du NPD, John Horgan, a accusé le gouvernement de Christy Clark d'utiliser ses projets de loi pour faire distraction au vote de confiance. Durant la période de questions, le leader du parti néo-démocrate, John Horgan, donc, a demandé à la première ministre Clark si les libéraux allaient soutenir à l'unanimité une motion pour procéder à ce vote immédiatement. La chef libérale a répondu qu'elle allait maintenir le calendrier prévu par les procédures législatives. Le leader parlementaire du gouvernement, Mike DeJonge, justifiait qu'il était important de mettre en place une législation sur le financement des partis aussitôt que possible. Il y a une possibilité d'avoir des élections à n'importe quel moment, a-t-il dit, et le plus tôt nous avons des nouvelles règles en place, le plus tôt nous pouvons les comprendre, a-t-il fait valoir. Alors, les libéraux ont eu plusieurs années et toute la campagne électorale du printemps pour annoncer de nouvelles règles en matière de financement politique en Colombie-Britannique, mais ils ne l'avaient pas fait. C'est seulement maintenant qu'ils s'intéressent à ce sujet, sachant qu'ils n'ont plus la majorité à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Alors, c'est assez amusant de constater ce comportement et ce soudain intérêt pour le financement politique. On rappelle qu'il n'y a pas de limite au financement que peut recevoir un parti en Colombie-Britannique. Un parti ou un candidat. Donc, je rappelle le titre de cet article, deux projets de loi défaits en chambre pour faire défiance au gouvernement de Christy Clark. On va se transporter dans les pages de la presse anglophone provinciale, tout de suite dans le Taï. We need to move on. NDP and Greens eager for confidence vote as Liberal bills shut down. Alors, le NPD, et le Parti vert qui font alliance veulent absolument accélérer face aux libéraux qui, eux, choisissent de temporiser, cherchent à gagner du temps. Il est temps de passer aux choses sérieuses, indique en substance le chef du Parti vert, Andrew Weaver, et le chef du Parti néo-démocrate, John Horgan. Cet article du Taï, signé par Andrew McLeod, revient sur les deux projets de loi qui ont été défaits à l'Assemblée législative dans la journée de lundi. Dans le portail de Taï, toujours, on a un article intéressant sur la volte-face qu'a faite Christy Clark en choisissant de copier de larges pans du programme néo-démocrate pour essayer de s'attribuer des votes et ainsi gagner un gouvernement peut-être majoritaire à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Une méthode cynique ont jugé de nombreux observateurs et les chefs des deux partis alliés, les Verts et le Parti néo-démocrate. Et cet article de Bill Tilleman dans le Taï s'intitule « How Christy Clark destroyed the BC Liberal brand in just one day ». Comment Christy Clark a détruit la marque libérale, l'identité libérale en une seule journée. Alors, en une seule journée, écrit le chroniqueur du Taï, la première ministre a détruit de manière unilatérale une marque, une identité politique qu'il avait fallu 16 ans pour construire. Et évidemment, il est question dans cette chronique de la consternation dans les troupes libérales et chez les supporters du Parti libéral, particulièrement ceux qui sont d'allégeance conservatrice et qui avaient choisi de voter libéral pour faire front contre les néo-démocrates. Alors ceux-là, bien sûr, sont très déçus du 180 degrés opéré par Christy Clark dans l'espoir désespéré de s'accrocher au pouvoir. Donc, on s'achemine de plus en plus inéluctablement vers le vote de confiance qui verra la défaite définitive du Parti libéral de Christy Clark. On va s'éloigner du dossier de l'élection pour parler de bois d'œuvre. La Colombie-Britannique va continuer à se battre pour une entente négociée. C'est dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. On savait que cette décision s'en venait et ça fait mal, a déclaré John Rustad, le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, par voie de communiqué à la suite de l'annonce officielle des États-Unis de hausser les droits compensateurs sur les importations de bois d'œuvre canadien de 26% à 31%. La foresterie est au cœur de l'économie provinciale, a rappelé John Simon Rostad et nous allons continuer à nous battre pour défendre le gagne-pain de 60 000 Britanno-Colombiens issus de 140 communautés de la province. Le gouvernement de la Colombie-Britannique souhaite une entente négociée qui est la seule façon de protéger les intérêts des Britanno-Colombiens, a poursuivi le ministre. Un ministre qui ne sera vraisemblablement pas très longtemps en poste, sachant que le vote de confiance aura lieu jeudi. Mais tout de même, il a parlé au nom de la province. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, poursuit cet article de Radio-Canada, souhaite une entente négociée. Victoria croit que le geste des Américains fait mal aux travailleurs et aux entreprises forestières canadiennes, mais aussi à l'industrie de la construction et de la rénovation américaine et à leurs clients. Le Conseil du libre-échange pour le bois d'œuvre de la Colombie-Britannique, poursuit cet article, affirme quant à lui que les allégations de concurrence déloyale visant le Canada n'ont jamais été prouvées en cours et ne le seront jamais. Le Conseil exhorte les États-Unis à plutôt négocier une nouvelle entente. La Colombie-Britannique est la province canadienne qui exporte le plus de bois d'œuvre aux États-Unis, rappelle aussi cet article. Crise du bois d'œuvre, l'industrie et les gouvernements prêts à en découdre avec les Américains. C'est aussi sur le portail de Radio-Canada et c'est rapporté également par le Huffington Post. Le premier ministre Justin Trudeau ne se dit pas surpris de l'imposition de nouvelles taxes punitives sur le bois d'œuvre canadien par les États-Unis et dit avoir bon espoir qu'une fois de plus, les tribunaux donneront raison au Canada dans ce litige commercial historique avec les Américains. Questionné par les journalistes sur la nouvelle taxe de près de 7% imposée lundi par Washington sur le bois d'œuvre canadien, Justin Trudeau a expliqué qu'il n'est pas surpris puisque chaque fois que le Canada et les États-Unis se sont affrontés sur cette question, Washington a imposé des droits compensateurs et des droits anti-dumping sur les produits canadiens. Nous nous attendions à ces nouvelles qu'on a reçues hier, a dit le premier ministre. Toutes les fois précédentes, il y avait ces deux éléments à l'intérieur des actions des États-Unis, a-t-il expliqué. Malgré cette guerre commerciale, les relations entre le Canada et les États-Unis demeurent bonnes et cordiales, a assuré le premier ministre. Et cette nouvelle de la nouvelle taxe imposée au bois d'œuvre canadien a fait le tour du monde. On la retrouve dans un journal européen comme le Figaro par exemple et dans les colonnes de l'agence France Presse. Si vous voulez approfondir ou mesurer les échos qu'a eu cette nouvelle, vous pouvez vous rendre sur le portail du Figaro par exemple. Les États-Unis taxent à nouveau le bois de construction canadien. Plus localement maintenant, à l'échelle de Victoria, cause of barge fire on Gorge Waterway remains undetermined. Donc le feu qui s'est déclaré sur une barge dans la gorge il y a quelques jours à peine est toujours inexpliqué, la cause n'est pas connue. C'est ce que rapporte Victoria News sur le portail vicnews.com sous la plume de Kendra Wong. Vous avez peut-être été témoin de cet incendie qui s'est déclaré non loin du Bay Bridge sur la gorge côté Victoria. Un incendie qui a dû être maîtrisé par des bateaux pompiers et qui a causé toute une commotion dans le secteur il y a quelques jours. Donc les causes sont toujours inconnues. Et cet incendie rappelle un autre accident qui était survenu l'année dernière. Une barge au même endroit qui avait coulé s'était échouée et causé un déversement de vieilles ferrailles. La barge était remplie de vieilles voitures et quelques carcasses s'étaient retrouvées dans l'eau. Alors on peut imaginer que des conséquences environnementales ont été observées. On sait que des nages des gens pratiquent la natation dans la gorge cet été. Il y a des lieux de baignade, donc c'est assez sérieux de voir des incidents se reproduire ainsi chaque année. Alors le dernier en date, c'est cet incendie qui s'est déclaré à bord d'une barge C-SPAN dans la gorge. Vous aurez les détails sur vicnews.com. Et dans le Times Colonist, on revient sur un vieux fait divers, en fait un fait divers d'il y a plusieurs semaines, mais un fait divers portant sur un crime qui n'a toujours pas trouvé de solution, d'issue. Il n'a pas été résolu. Une attaque à domicile, une invasion de domicile survenue à Hogue Bay il y a 2 mois n'a toujours pas entraîné d'arrestation. On se rappellera qu'une dame avait été attaquée à son domicile en début de matinée par un homme armé d'une arme blanche, un homme qu'elle ne connaissait pas. Des recherches avaient immédiatement été conduites à l'échelle de Victoria par plusieurs services de police et sans résultat, malheureusement. Et deux mois plus tard, donc après cette attaque du 25 avril, on n'a toujours pas de suspect à l'horizon. Aucune arrestation n'a été faite. Le portail du Times Colonist revient sur les faits et s'interroge sur les progrès de cette enquête n'a pas connu de résultats, du moins jusqu'à présent. Donc vous aurez ça dans le Times Colonist à l'adresse timescolonist.com. On parle de sport maintenant. Un athlète britanno-colombien que vous connaissez peut-être, Mark Recchi, c'est un hockeyeur. Le 12e marqueur dans l'histoire de la LNH a fait son entrée au temple de la renommée du hockey après sa 4e année d'admissibilité. C'est rapporté par le portail NHL.com, donc le portail officiel de la Ligue nationale de hockey. Et on a les commentaires du principal intéressé qui est un britanno-colombien originaire de Kamloops en Colombie-Britannique. Il est âgé de 49 ans maintenant. Vous l'avez connu notamment dans l'uniforme des pingouins. Et c'est, rappelle cet article de NHL.com, le 12e marqueur dans l'histoire de la LNH. Alors, il a fait une entrée méritée au temple de la renommée. Vous aurez ça sur le blog NHL.com. On parle de cannabis à présent. On sait que le Canada va légaliser le cannabis très prochainement. Deux compagnies canadiennes ont jeté leur dévolu sur la petite municipalité de Whedon au Québec pour y construire 15 serres qui seront dédiées à la production de marijuana médicinale. Alors pourquoi parle-t-on de cette ouverture de deux installations de production à grande échelle de marijuana médicinale? Ben parce que l'une des deux compagnies est une compagnie Vancouver. Et cette compagnie se spécialise dans la production et la distribution de marijuana médicinale. Elle est l'une des deux compagnies donc qui s'installera dans le sud du Québec, dans la petite localité de Whedon. C'est sur un terrain de 329 acres que les promoteurs du projet construiront cette serre géante. Et ça fera de Whedon l'une des métropoles de la production de cannabis au Canada. Ces deux installations pourraient produire au total 500 emplois, un projet évalué à 200 millions de dollars. Donc, vous trouverez ça sur le portail tvanouvelle.ca, tvanouvelle.ca en date du 27 juin. Voilà, c'est sur cette actualité qu'on va compléter aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles britanno-colombiennes. Mon nom est Alexis Gagnon. Merci d'écouter Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On effectue une courte pause. Au retour, on se penche sur la météo des prochains jours. À tout de suite. Le débrief édition des 27 et 28 juin, c'est presque terminé. On ne se laissera pas toutefois sans avoir consulté rapidement la météo des prochains jours en se rendant sur le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca. Région de Victoria, une région qui est difficile d'ailleurs pour les météorologistes. Quelqu'un me le disait récemment d'ailleurs, c'est un scientifique qui est chercheur à UVic dans un domaine connexe qui touche au climat justement. Il paraît que les variables qui régissent le climat de la région de Victoria sont très nombreuses et très complexes. Il y a des montagnes, il y a des courants marins, il y a des vents qui se chevauchent, qui se rencontrent. Je m'aventurerai pas trop à vous décrire la complexité du système, mais Victoria, paraît-il, est une des régions sur le plan météorologique où il est le plus difficile d'émettre des prévisions. Cela dit, on va quand même se risquer à faire confiance aux prévisions d'Environnement Canada pour les prochaines 72 heures, on va dire. Si vous nous écoutez en fin d'après-midi, dans la fin de journée du 27 juin, on a 16 degrés à l'aéroport de Victoria. Pour le mardi 27 juin, du soleil, un soleil largement dominant dans un ciel bleu avec un maximum de 21 degrés. Ça demeure dégagé en soirée le 27 juin. Et pour le mercredi 28 juin, 22 degrés. avec du soleil. Et les jours suivants, c'est à peu près la même histoire. Jeudi 29, du soleil. Vendredi 30, du soleil. Et pour le week-end, le soleil qui reste bien implanté dans la région avec un mercure qui oscillera entre 22 et 24 degrés au cours des prochains jours. Donc, si vous voulez confirmer tout ça de visu, rendez-vous sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Donc, voilà pour le petit tour des prévisions météo d'Environnement Canada. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi le débrief. On se retrouve demain, bien sûr, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Ici Louis Gagnon, j'écoute CILS 107,9 FM de chez moi en Italie sur le CILSFM.ca.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS FM.
Vous écoutez CLS FM, votre radio communautaire.
Vous écoutez présentement CLS FM 107.9.
Allô la planète avec Éric Lange.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Allô la planète. Pour discuter avec vous du monde tel qu'il est autour de nous, il y a Anaïs qui sera avec nous tout à l'heure. Elle a fabriqué un beau film sur l'Amazonie, voyage en terre indigène. Elle nous racontera et le voyage et le film. Romain, vous savez que Romain est un des plus anciens blogueurs de voyage de France, 10 ans déjà. On va voir ses nouveaux projets avec lui. Et on démarre avec... Ah, on va en Belgique, tiens, avec
Allô la planète, avec Chapka.
Bonjour Mélissa, bienvenue.
Bonjour Eric, ça fait plaisir de t'entendre.
Mais oui, moi aussi, t'es en Belgique, t'es à la maison ?
Eh oui, pour le moment, mais prête à repartir.
La dernière fois, tu venais d'arriver sur l'île Féroé, les îles Féroé, tout juste.
Oui, tout juste.
T'es là, du coup, on s'est dit, bon, faudra se rappeler pour voir ce qui s'est passé là-bas. Alors, c'était bien les îles Féroé ?
Ah ouais, c'était super bien. J'étais partie, on va pas dire avec un peu d'appréhension, mais en me disant, oh, est-ce que ça va être aussi bien que la première fois ? Est-ce que j'ai encore en prendre plein les yeux ? Et pour finir, oui.
T'es restée combien de temps, excuse-moi ?
Je suis restée 6 jours.
6 jours, ouais, d'accord. Ouais. Et alors, on rappelle où c'est, les îles Féroé, c'est
ouais,
là-haut, dans le Nord.
C'est pile entre l'Écosse et l'Islande.
Au milieu, voilà.
Au milieu.
Ça appartient à quelqu'un ou c'est indépendant ?
Non, ils sont sous souveraineté danoise, mais ils ont une très grande autonomie. Donc, par exemple, ils font pas partie de l'Union européenne.
Svinøy et Fugløy, là, on est vraiment au bout du monde. C'est ce que t'écris sur ton blog. C'est quoi Svinøy et Fugløy?
Ouais, alors Svinøy et Fugløy, ce sont les deux.